RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, c'est le plus grand archipel du monde. L'Indonésie compte aujourd'hui plus de 16 000 îles, mais selon les experts et les autorités, 2 000 d'entre elles pourraient se retrouver englouties par la mer d'ici à 2050. En plus de la montée des eaux, encouragée par le réchauffement climatique, un autre phénomène mal connu participe à accélérer ce processus, c'est l'exploitation du sable marin. Contrairement au sable du désert, la capacité de ces grains à s'agréger solidement les uns aux autres en font un produit très prisé des industries, dont la plus gourmande en granulats, l'immobilier. Aujourd'hui, en Indonésie, le sable est principalement extrait sur les plages et le long des côtes. Conséquence, les villages de pêcheurs sont bien souvent en première ligne pour observer l'évaporation du sable, les dégâts occasionnés sur les écosystèmes et la précipitation de la montée des eaux. Le cauchemar des marchands de sable, grand reportage signé Joël Brunner.
Juste ici, nous avions une bande de plages de sable blanc qui s'étendait sur 6 km à partir du port où nous sommes. C'était vraiment magnifique. Et puis le sable marin a été exploité. Regardez le résultat, la plage a tout simplement disparu. Comme vous voyez, à la place, il n'y a plus que la mer.
Vous l'ignorez peut-être, mais le sable marin est aujourd'hui la ressource naturelle la plus consommée sur la planète, après l'eau. Progressivement, ce sable disparaît du fond des mers et des plages pour réapparaître après métamorphose dans nos vies quotidiennes. Résultat, aujourd'hui, le sable est partout. Dans le verre qui structure les vitres de la voiture qui nous éloigne de Jakarta, dans la route que nous empruntons pour rallier la province voisine de Banten, ou encore dans la puce du téléphone portable qui m'accompagne. Plus fondamental encore, lorsqu'il est allié au ciment, le sable est un ingrédient essentiel du béton armé qui consolide la majorité des constructions architecturales actuelles. À l'image des myriades de gratte-ciel que nous laissons derrière nous, comme autant d'érections de bétons incontrôlées sur le corps asphyxié de la capitale indonésienne. Avant de prendre la route, Melki Nahar de l'ONG Jatam, spécialisée dans la lutte contre les excès de l'exploitation des ressources naturelles, nous avait averti.
Le grand public pense généralement que l'exploitation et l'extraction du sable est quelque chose de mineur qui s'effectue à petite échelle et que cela ne nuit que modérément à l'environnement et aux populations. Pourtant, cette perception est fausse. Ici, en Indonésie, cette industrie s'est déjà étendue à peu près partout dans l'archipel. C'est notamment une conséquence de l'appétit de notre président pour le développement des infrastructures.
Toutes les sociétés modernes, pays en développement en tête, sont extrêmement gourmandes de ce sable qui les aide à transformer leur métropole en remplaçant les maisons et petits immeubles d'hier par les tours de 30 à 100 étages d'aujourd'hui. Un seul exemple, un représentant de l'ONU a récemment estimé que la Chine, dont le développement se poursuit à toute vitesse, venait de consommer plus de sable en 4 ans que les États-Unis au cours de l'ensemble du XXe siècle. De son côté, l'Indonésie n'est pas en reste. Et pour que le sable marin fasse son apparition au sein des nouvelles infrastructures qui jalonnent notamment la capitale Jakarta, il faut bien en contrepartie qu'il disparaisse ailleurs.
En Indonésie aujourd'hui, les principales sources d'où le sable est extrait se situent sur les plages et dans la mer. Plus ce type d'extraction prend de l'ampleur et plus les poissons sont menacés de disparaître et les pêcheurs de perdre leur mode de vie et leurs revenus. Par ailleurs, en raison de l'abrasion et des dégâts infligés à la qualité de l'eau, les paysages aussi sont altérés. La surexploitation du sable a donc pour conséquence la détérioration des écosystèmes et la réduction des zones de pêche.
Plus grand état archipel du monde, l'Indonésie compte plus de 16 000 îles, des milliers de kilomètres de côte et une quantité industrielle de sable. Pour nous focaliser sur les conséquences environnementales et sociales de l'exploitation de ce sable, nous prenons le parti de nous rendre dans une zone où, après une décennie d'exploitation, l'extraction du sable est pour l'instant suspendue. Nous sommes à Lontar, dans la province javanaise de Banten, à 3 heures de route de Jakarta. Au large des côtes de ce village de pêcheurs, le sable a été exploité sans relâche entre 2004 et 2013. Nous embarquons sur un petit bateau tout juste de retour de la pêche matinale. Casquette recouverte d'un t-shirt sur le crâne pour se protéger des morsures du soleil, les deux membres d'équipage s'emploient à nettoyer et réparer leurs filets. le capitaine Semoukid, 46 ans. Plus tôt ce matin, son bateau a rapporté à Lontar près de 40 kg de poissons, des pompano en l'occurrence.
Pendant l'exploitation du sable, c'était impossible de trouver du poisson par ici. On devait aller plus loin, beaucoup plus loin. Il fallait carrément quitter la province de Banten, où nous sommes, pour aller déposer nos filets jusqu'aux environs de Jakarta, vers ce qu'on appelle les mille îles.
La quelques dizaines d'îles, baptisées mille îles, se situent à vol de mouette à plusieurs dizaines de kilomètres de là, 30 kilomètres au minimum pour atteindre l'île la plus proche. Un véritable périple pour ceux qui pêchaient auparavant, à une dizaine de minutes seulement des côtes de leur village. Sur le bateau, Fachrouri, du syndicat des pêcheurs de Lontar, nous accompagne. Il est là pour nous montrer les dégâts qu'a occasionné l'exploitation du sable. C'est lui qui, avant de monter à bord, nous décrivait la disparition des 6 km de plage qui bordaient encore Lontar il y a quelques années.
Nous nous trouvons à présent dans la zone de pêche, à l'endroit où se situaient des bassins à poissons et à crevettes qui étaient délimités par de petits barrages. Ils s'étendaient sur des centaines d'hectares, mais à cause de l'abrasion, l'ensemble de ces anciens bassins a été totalement recouvert par les eaux. On n'en voit même plus la trace aujourd'hui.
L'abrasion correspond au phénomène d'usure provoqué par le frottement de la mer et des vagues, notamment sur les côtes. Un phénomène décuplé ici par la disparition du sable qui ne joue plus son rôle de ralentisseur ou de barrière naturelle face à l'océan. Tandis que le bateau à l'arrêt tangue au gré du courant, Fachrouri se déporte un peu sur le côté et pointe son doigt dans une nouvelle direction, vers une zone à 15 km de Lontar. Ici, ce n'est pas compliqué, les conséquences de l'exploitation du sable sont partout.
Au loin, là-bas, vous avez l'île de Tunda. Cette île a fortement souffert de l'exploitation du sable, notamment sur la côte sud où l'abrasion a été très forte. Dans ce secteur, le nombre de poissons a décru de manière tellement significative que les pêcheurs de l'île ont dû se reconvertir en guides pour les touristes de la région.
Retour sur la terre ferme. Fachrouri tient aussi à nous montrer des maisons de pêcheurs quelques kilomètres plus à l'est. En passant devant un bras de mer qui s'infiltre déjà largement entre les habitations modestes bâties là, il se met à pester sur son scooter. Voilà dans quel état est mon pays à cause de l'abrasion. Les habitants ont récemment planté des mangroves pour tenter de protéger l'aquaculture dont ils dépendent de l'invasion des eaux océaniques. Sans résultat probant pour l'instant. Ici, la mer gagne à grande vitesse le terrain que les habitants sont, eux, contraint de perdre en contrepartie. Au pied de maison que l'eau a presque déjà rejointe, Fachrouri explique.
L'abrasion est un phénomène naturel provoqué par la mer, mais ceux qui exploitent le sable ont fait gravement empirer les choses. En retirant le sable, la mer devient plus profonde et les vagues plus grosses, et donc elles viennent davantage rogner sur les terres. Il y a 10 ans, les terres cultivables s'étendaient jusqu'au-delà des mangroves, à une vingtaine de mètres d'ici. Maintenant, comme vous le voyez, ces terres ont laissé place à la mer.
Une réalité avec laquelle vit désormais Sariman, pêcheur à la tête d'une famille de 5 personnes qui vivent donc pratiquement les pieds dans l'eau. Lui aussi, bien sûr, se rappelle de la terre lorsque celle-ci s'étendait encore au-delà du niveau des mangroves là-bas. Nous lui demandons s'il serait prêt à travailler pour le compte des exploitants de sable dans l'éventualité où le travail venait à manquer. Il balaye l'idée d'un revers de la main.
Toute notre vie dépend de l'océan, pas du sable. Nous vivons grâce à la mer et nous en tirons nos revenus. Si les exploitants de sable reviennent, cela va susciter beaucoup de peine et de colère ici.
Et Fachrouri de développer.
Pour nous, les gens d'ici, le sable ne représente pas l'avenir, contrairement à l'océan. Ce commerce du sable, il ne pourrait de toute façon pas donner du travail aux 1500 pêcheurs du coin. Et puis, combien de temps y aura-t-il encore du sable? Extraire du sable, ce n'est pas une activité qui s'inscrit dans le long terme, contrairement à la pêche, qui elle peut nous faire vivre sur des générations.
Direction le marché aux poissons de Lontar. Sur le chemin, nous rencontrons Satiri Bisayunti, un restaurateur de 51 ans. Il possède une petite gargote à deux pas du port, spécialisée dans les plats à base de poissons et de crustacés. Les dégâts occasionnés à l'écosystème par le commerce du sable sont notamment le fait du dragage, cette technique qui consiste à prélever le sable en raclant le fond des mers. L'impact économique qui en résulte aide à prendre la mesure des ravages occasionnés sous l'eau. Satiri, le restaurateur, explique.
L'extraction du sable a entraîné une hausse des prix très importante de tous les produits que j'achète pour le restaurant. Malheureusement, ça ne s'est pas inversé depuis que cette exploitation a pris fin. Et ça, c'est parce que tout l'écosystème a été dévasté. Les poissons, les crevettes, les homards, les crabes, ils n'ont plus d'endroit où vivre. Résultat, ici, il y en a de moins en moins, ce qui fait que les pêcheurs gagnent moins bien leur vie, qu'ils revendent du coup leurs marchandises plus chères. Et donc que tout augmente.
Depuis le passage des marchands de sable au large de l'Ontar, le prix du maquereau a ainsi presque doublé, le kilo de crevettes a été multiplié par 4, tandis que les crabes, jadis si nombreux, se sont raréfiés au point de voir leur valeur marchande augmenter de 500%. Nous quittons le restaurateur pour rallier le marché aux poissons de l'Ontar, où un nouvel arrivage est annoncé au mégaphone. Sur le sol du petit hangar, deux raies entreposées sur le dos jouxtent un seau de petits crabes et deux caisses de pompano. Tandis que de petites mains s'activent à nettoyer le sol du marché, Suwardi, 50 ans, se repose sur un banc après son retour de la mer.
À cause de l'exploitation du sable, la présence des poissons a diminué de manière spectaculaire. Avant, un bateau pouvait facilement rapporter de 50 à 100 kg de poissons. Mais maintenant, il y a des jours où c'est parfois impossible de ramener plus de 10 kg. En plus, on a eu des tas de problèmes avec nos filets qui se coincent et se déchirent dans les trous que les extracteurs de sable ont provoqués sous l'eau. Nous, on ne demande rien de particulier au gouvernement, simplement qu'il ne leur accorde pas l'autorisation de revenir extraire le sable ici.
Il y a quelques années, les pêcheurs de l'Ontar se sont mobilisés contre les marchands de sable. D'un ton posé, Fajrouri nous laisse imaginer les tensions de l'époque à l'aide d'une photo tirée de son téléphone. Sur celle-ci, on distingue une frêle embarcation se diriger vers un gros navire.
Et pendant 2012,
ça, par exemple, c'est une photo qu'on a prise en 2012. Avec les pêcheurs d'ici, nous avions embarqué sur des barques traditionnelles. Notre objectif était de chasser ce gros bateau. Pour ça, on leur a crié dessus et puis on leur a lancé des pierres aussi.
Au-delà de coups d'éclat comme celui-ci, la mobilisation des pêcheurs à tous les niveaux, notamment politique, a contribué à faire cesser l'extraction de sable en 2013. Une nouvelle épée de Damoclès vient cependant tout juste d'apparaître au-dessus de l'Ontar et des côtes de Banten. Les futurs besoins en sable destinés à l'aménagement de la baie de Jakarta, au nord de la capitale indonésienne. Car en plus de constituer un ingrédient essentiel des infrastructures, le sable marin est en effet aussi le produit rêvé pour l'extension d'un territoire terrestre. Il peut ainsi servir de socle à la construction de nouveaux terrains sur l'eau. Dans le cas de Jakarta, le projet controversé consiste en la construction d'une dizaine d'îles artificielles au large de la capitale. En raison notamment des conséquences environnementales jugées risquées, un moratoire avait été décrété sur cet aménagement. Celui-ci vient donc tout juste d'être levé et l'importation de quantités massives de sable, en provenance d'autres secteurs de l'archipel, pourrait bien reprendre rapidement. Marsad, surnommé Boy, occupe un petit bureau accolé au port. Il se présente comme celui qui aide les 1500 pêcheurs de l'Ontar à faire face aux difficultés qu'ils rencontrent.
En 2013, le ministère des Affaires maritimes a fait cesser l'exploitation du sable ici. Mais là, le moratoire sur le réaménagement de la baie de Jakarta vient d'être levé. Donc, nous sommes préoccupés car nous avons vraiment peur que tout ça recommence et que les industriels reviennent prendre encore plus de sable ici, dans la province de Banten. Pour l'instant, nous, les petits pêcheurs, restons vigilants et nous nous tenons prêts à agir et à résister à nouveau s'il le faut. Nous résisterons aussi longtemps que le gouvernement ne sera pas du côté de la population.
Pemerintah tidak berpihak terhadap rakyat.
départ, le marchand de sable, ou l'homme au sable, est un mythe, un personnage de conte parfois cruel. Dans le langage populaire, il passe ou il est passé et tout le monde s'endort. À partir des années 60, il devient aussi une célèbre marionnette qui vient souhaiter bonne nuit les petits à la télévision française en compagnie d'un ours en peluche qu'il appelle patron. À l'heure actuelle, le passage permanent des patrons de l'industrie du sable est devenu une réalité au niveau mondial, comme l'a notamment révélé le très bon documentaire « Le sable, enquête sur une disparition » sorti en 2013, qui a été l'un des pionniers à sonner le réveil des consciences. Car tandis que se joue la berceuse des marchands de sable, tandis que la mer monte et que le sable diminué ne joue plus son rôle de barrière naturelle, c'est l'existence même de certains territoires, petites îles en tête, qui se retrouvent menacées à un rythme accéléré. Arifian Asuncion est en charge de la question des océans pour Greenpeace.
One of the trigger is yes, mine. So,
l'extraction de sable peut être un déclencheur, oui, mais en général, il s'agit de la combinaison de plusieurs facteurs. Imaginons que sur une petite île, les plantations de mangroves soient détruites. Eh bien, cela va accélérer l'érosion car plus de vagues vont déferler sur les côtes. Et si ensuite l'exploitation du sable débute et que cette petite île disparaît, en toute objectivité, je ne peux pas dire que l'exploitation de sable soit seule en cause. Je dirais que tout dépend surtout de la manière dont le gouvernement et les industriels gèrent l'ensemble des ressources naturelles.
The industries in Indonesia manage the resources.
Jakarta n'est de loin pas le seul endroit avide de sable. Singapour, micro-état voisin, a pour sa part augmenté sa surface de 130 km² ces 40 dernières années, principalement grâce à l'extension de son territoire sur l'eau. La superficie du pays a ainsi progressé de 20%, au point de susciter des tensions avec plusieurs pays voisins qui ont refusé de livrer davantage de sable aux gloutons singapouriens. Pourtant, l'expansion maritime de Singapour se poursuit toujours aujourd'hui et nécessite là encore des tonnes et des tonnes de sable. Une demande à présent partiellement alimentée à l'aide du trafic mis en place par des mafias du sable. Dans une dynamique aussi simple que celle de déshabiller Pierre pour habiller Paul, une partie de ce sable provient des îles indonésiennes Riau, les plus proches de Singapour.
Legally and illegally is still ongoing.
Le commerce du sable se poursuit à la fois de manière légale et illégale. Géographiquement, une partie des besoins en sable de Singapour est comblée par les îles Riau. Cela pose des questions de souveraineté qui en font un sujet très sensible. Bien sûr que Singapour a le droit de se développer, mais c'est une équation très compliquée. Lorsqu'une île disparaît en partie d'un pays pour grosso modo réapparaître dans un autre, ce n'est plus uniquement un problème environnemental, cela devient aussi un problème politique.
Les analystes les plus alarmistes estiment qu'au rythme effréné où va la consommation de sable marin au niveau mondial, l'ensemble des plages pourrait tout simplement être amené à disparaître d'ici à la fin du siècle. En raison du positionnement stratégique de leur lieu de vie sur les côtes, les pêcheurs comme ceux de Lontar sont aujourd'hui un thermomètre des excès des marchands de sable. Eux qui détruisent l'habitat des poissons et crustacés dont nous nous nourrissons et participent à l'accélération de la montée des eaux et de l'érosion des côtes. À ne pas se soucier des conséquences sous-marines du commerce du sable, à ne pas prêter l'oreille à ces travailleurs de la mer, à se dire qu'ils n'ont après tout qu'à s'adapter et changer de métier, que c'est le jeu du développement, et à ne pas chercher activement d'alternatives au sable marin, en particulier dans le secteur de la construction, nous serons alors bien inspirés de conserver précieusement ces rires d'enfants qui jouent sur la plage. Car il pourrait très bientôt s'agir d'un enregistrement d'archives. Cauchemar des marchands de sable, un grand reportage de Joël Bronner, réalisation Sophie Janin.